Entretien sur la première épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1959. Chapitre 12, verset 31, chapitre 13 et chapitre 14, verset 1. Or désirez avec ardeur des dons de grâce plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Chapitre 13. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie, et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliments tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour use de longanimité, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Chapitre 14, verset 1. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Au dernier verset du chapitre 12 et au premier du chapitre 14, l'apôtre exhorte les saints de Corinthe à « désirer avec ardeur les dons spirituels ». J'entends souvent ces paroles dans la bouche des chrétiens, mais je me demande si elles expriment un désir réel sortant du fond de nos cœurs et de nos consciences. Désirer avec ardeur n'est pas un simple désir, mais un besoin brûlant. Nous pouvons ne pas manquer de dons, sous forme de services divers, mais il s'agit ici des dons de grâce plus grands. Que des chrétiens, habitués à suivre un homme, institué par les hommes, n'aient aucun désir ardent de dons spirituels pour eux-mêmes, cela n'a rien d'étonnant, car ils ont ce qu'ils souhaitent. Mais ceux qui possèdent mieux que cela, et que la grâce a sorti d'un milieu où les dons sont méconnus, les désirent-ils réellement? Laissons cette pensée agir sur nos cœurs. Nous n'obtiendrons les dons plus grands que si, sortant de notre apathie spirituelle, nous les désirons avec ardeur. Quels motifs peuvent nous y engager? Nous-mêmes, le relief donné à notre personnalité ou notre propre gloire. Mais alors, nous n'aurions rien compris à ce que le chapitre 12 nous a présenté. Le bien de nos frères, l'utilité pour le corps de Christ, la gloire du Seigneur. Dans ce cas, nous entrons dans un chemin plus excellent. Plût à Dieu qu'il y eût ce zèle ardent pour lui et pour l'édification des saints. C'est ce que l'apôtre nous recommande. Nous avons vu au chapitre 12 que les dons diffèrent, mais il y en a de plus grands, l'un d'entre eux surtout. Le chapitre 14 nous dit à son sujet que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Or c'était précisément ce dernier don que les Corinthiens estimaient le plus, car il les faisait valoir aux yeux des autres. Jamais les dons qui mettent l'homme en vue ne sont les plus grands. Même la connaissance enfle. Un homme qui a beaucoup étudié la parole et qui en a l'intelligence est en danger de se croire quelque chose. Seule la connaissance de Christ nous humilie. Mettant un peu à part les apôtres, comme revêtus d'une mission qui n'était pas confiée à d'autres, il dit « En second lieu des prophètes, ce n'est pas comme en Éphésiens 2, verset 20, où il parle du don de prophétie comme appartenant aux apôtres. » Éphésiens 2, verset 20 « Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. » Ici, il sépare d'eux les prophètes, comme en Éphésiens 4, verset 11, et ajoute en troisième lieu des docteurs. Éphésiens 4, verset 11 « Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ce sont donc deux classes d'hommes dont les premiers, les prophètes, étaient appelés à révéler aux autres les pensées de Dieu, et les seconds à leur enseigner la vérité. Mais, quand il s'agit de prophétie, l'apôtre fait une différence entre la révélation des choses futures et la révélation des pensées actuelles de Dieu. En parlant de la première, il dit au chapitre 12, verset 10,
« À un autre, la prophétie. »
Et au chapitre 13, verset 2,
« Si j'ai la prophétie. »
En parlant de la seconde, il dit au chapitre 14, verset 1,
« Désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. »
N'avez-vous jamais rencontré ce don-là? N'avez-vous pas dit, quand il s'est exercé dans l'assemblée, « Cet homme est un prophète. Il nous a révélé les choses de Dieu et nous a placés en sa présence. » D'une manière toute nouvelle et inattendue. Au chapitre 12, nous trouvons la doctrine des dons du Saint-Esprit, et au chapitre 14, ses dons en exercice. Mais le chapitre 13 introduit, entre ces deux sujets, une condition absolument indispensable pour l'exercice des dons, l'amour. Sans l'amour, retenons-le bien, ils sont absolument inutiles. On peut posséder les dons les plus éminents. Ils n'ont aucune valeur si l'amour ne les met pas en activité. Cela nous juge. Si notre action dans l'assemblée provient du désir de plaire aux hommes ou de nous faire valoir, elle est moins que nulle. Elle est malfaisante et n'a aucun rapport avec le service du Seigneur. Est-ce, dit l'apôtre,
que je cherche à complaire à des hommes. Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ.
Galates 1, verset 10. Le chemin bien plus excellent est donc l'amour. Vous verrez, au chapitre 14, que tout en découle, quoique le mot amour n'y soit pas prononcé. Dans ce chapitre, l'apôtre revient toujours à l'édification, mais il est impossible d'édifier l'assemblée sans amour.
La connaissance enfle, mais l'amour édifie.
Chapitre 8, verset 1. Je pourrais communiquer aux auditeurs des choses très intéressantes, mais si elles attirent les regards sur moi, elles n'auront servi qu'à m'exalter et à détourner les âmes de Christ. Notre chapitre commence par montrer qu'on peut posséder tous les avantages spirituels sans aucun résultat.
Si je parle dans les langues,
chose que les Corinthiens recherchaient avant tout,
des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante.
Un bruit. Si l'on frappe sur une cloche d'airain, cela produit un son qui se prolonge un peu, puis tout rentre dans le silence. Le son a pu être très harmonieux ou retentissant comme celui de la cymbale, mais il n'a pas produit d'autre effet que de s'envoler dans les airs.
si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance. » Il parle ici de la révélation des choses futures et de la connaissance des mystères contenus dans la parole. Et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes. Il fait allusion à la puissance dont le Seigneur entretenait ses disciples. Si vous avez de la foi et que vous disiez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait.
Matthieu 21, verset 21. Si je possède cette puissance sans l'amour, je ne suis rien. On peut exercer une grande influence, être doué d'une manière spéciale pour accomplir des faits extraordinaires, et cependant être réduit à rien, car ses dons sont le néant pour Dieu. L'apôtre va plus loin encore au verset 3. Un homme distribue tout son bien en aliments, se réduit à l'extrême pauvreté jusqu'à n'avoir plus que son corps. Il le livre pour être brûlé. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici des martyrs, car lorsque Paul écrivait, les martyrs n'étaient pas encore livrés au bûcher. Mais il dit cela d'une manière générale, pour indiquer qu'un tel homme consent à ce qu'il ne reste rien de lui après lui. Un tel homme sera appelé un héros qui pousse l'abnégation jusqu'à se sacrifier lui-même personnellement. Mais s'il n'a pas l'amour, cela ne lui profite de rien. De telles paroles nous font mieux comprendre l'importance de l'amour dans l'exercice des dons. S'il est absent de nos cœurs, cela doit être un sujet d'humiliation profonde. Comment, sans l'amour, être utile à nos frères? Comment, sans lui, annoncer l'Évangile au monde? À cet égard, l'apôtre disait de lui-même,
« L'amour du Christ nous étreint. »
L'amour donnait de la puissance à sa prédication. Sans lui, les dons les plus éminents n'avaient pas de valeur. Il peut arriver, d'autre part, qu'un don, sans apparence ni valeur à nos yeux, produise les résultats les plus bénis, parce qu'il a l'amour pour mobile. Toutes ces choses amènent l'apôtre à la description de l'amour. Il n'en donne pas une définition proprement dite, car l'amour est l'essence même et la nature de Dieu, mais plutôt la description de l'amour en action, et c'est ce que nous avons besoin de savoir. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous donne, au sujet de la foi, une description analogue en nous présentant l'activité de la foi, tandis que la foi est proprement la réception du témoignage que Dieu nous a donné au sujet de son Fils. En considérant l'ensemble des versets 4 à 7 de notre chapitre, nous pouvons nous convaincre qu'un seul homme, Jésus, a réalisé l'amour d'une manière parfaite. Ces versets sont donc une description de l'activité de l'amour de Christ dans ce monde. Vous trouvez ici, et non sans raison, 14 caractères de l'amour. Le nombre 7 est celui de la plénitude. Le nombre 14 est, pour ainsi dire, la plénitude de la plénitude. Le nombre 7 est parfait, le nombre 14 plus que parfait. Quand il s'agit de notre propre état, nous pouvons nous demander si, même imparfaitement, nous réalisons l'activité de l'amour telle qu'elle nous est présentée dans ce passage. Arrivés au bout de cette liste, nous devrons avouer avec une profonde humiliation que telle n'a pas été notre conduite. Et, nous arrêtant sur chacun de ces caractères, nous dirons « J'ai manqué d'amour ». Mais par cet examen de nous-mêmes devant un modèle parfait, nous gagnons en expérience et nous sommes encouragés à montrer plus d'amour dans notre activité chrétienne. Remarquez dans ces versets les diverses qualités de l'amour. Le caractère général de toutes est le renoncement à soi-même. L'envie, la vantardise, l'orgueil sont autant de traits de l'égoïsme humain. Je m'arrête souvent sur le mot « il n'agit pas avec inconvenance ». Un chrétien qui manque de tact pour parler le langage du monde n'agit certainement pas dans l'amour. vous trouverez souvent, en conséquence, beaucoup plus de tact chez des chrétiens sans éducation que chez d'autres qui en ont reçu, par la seule raison qu'ils agissent en amour. Ils ne disent pas une parole ni ne font un acte inconvenant.
Ils ne s'irritent pas, ils n'imputent pas le mal, ils ne se réjouissent pas de l'injustice.
Combien cela nous juge ? Ne sommes-nous pas plus promptes à faire ressortir les défauts de nos frères que leurs qualités et, quand nous parlons d'eux, le dénigrement n'est-il pas notre première pensée ? L'amour ne fait rien de semblable. L'amour se réjouit avec la vérité. On rencontre souvent la vérité sans l'amour. Alors, au lieu d'attirer les âmes, elle les blesse, les détourne et les repousse. L'apôtre pouvait ne blesser personne parce qu'il avait de l'amour. On rencontre souvent aussi l'amour sans la vérité. Dans ce cas, c'est un amour sans objet qui ne mérite pas le nom d'amour, car la vérité, c'est Christ, sa parole, son esprit. Il termine sa nomenclature par ces mots.
Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout.
On trouve dans l'amour non seulement les caractères négatifs dont nous venons de parler, mais une énergie positive qui nous rend capables de tout supporter, travaux, fatigues, souffrances, de tout croire. Tout croire n'est pas la crédulité qui croit des mensonges, mais la promptitude à accepter le bien chez d'autres, au lieu de le mettre en doute. Tout espérer, c'est regarder avec confiance en avant, comptant voir pour d'autres la réalisation du bien, au lieu de nous défier d'eux, ce qui n'est pas autre chose que nous défier de la grâce. Tout endurer, c'est traverser sans se plaindre la calomnie, les outrages, la mauvaise réputation. L'apôtre termine en disant
« L'amour ne périt jamais ».
Il montre ensuite que tous les dons, langues, connaissances, prophéties cesseront pour faire place à ce qui est parfait. Alors nous en aurons fini avec ce qui appartient à l'enfant. Ce dernier parle, langue, pense, prophétie, raisonne, connaissance, comme un enfant. Mais tout cela aura sa fin, quand nous verrons face à face et connaîtrons comme nous avons été connus. Trois choses, ajoute l'apôtre, caractérisent le chrétien et demeurent maintenant, au milieu de tant de choses qui ne durent pas. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la foi aussi prendra fin et sera remplacée par la vue. L'espérance prendra fin pour être remplacée par la possession de Christ, son objet. Une seule ne finira pas, celle dont il est dit
« L'amour ne périt jamais ».
Elle est plus grande que les dons de grâce, plus grande encore que la foi et l'espérance des choses qui demeurent maintenant. Si l'amour est l'être même de Dieu, il est aussi son activité suprême. Une mer de délices sur laquelle nous voguerons éternellement, sans jamais en atteindre les rivages, car elle n'en a pas. Nous allons le voir comme nous avons été vus, le connaître comme nous avons été connus, l'aimer enfin comme il nous aime, d'un amour inexprimable. Que cette pensée remplisse nos cœurs et en déborde.